Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le quatrième dimanche. Jésus et ses disciples pénètrent dans Capharnaüm. Alors, le jour du sabbat, il entre dans la synagogue et enseigne. On est frappé de son enseignement. En effet, il les enseigne comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alors, il y a dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écrie :
« Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus le Nazarénien ? Tu es venu pour nous perdre. J'ai bien vu qui tu es, le Saint de Dieu. »
Jésus le rabroue.
« Sois réduit au silence et sors de cet homme. »
L'esprit impur l'agite convulsivement, crie à grands cris, et il sort de lui. Ils sont tous saisis de crainte au point qu'ils se demandent les uns aux autres.
« Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, avec autorité. Il donne ordre aux esprits qui sont impurs et ils lui obéissent. »
Sa renommée se répand alors partout, dans tout le voisinage de Galilée. Alors ils sortent de la synagogue et vont dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Autorité dans l'enseignement, autorité sur les esprits mauvais, on peut dire que voilà le maître mot de ce texte.
Eh bien oui, de quelle autorité parle-t-on ici? Comment s'exerce-t-elle encore aujourd'hui? Et l'emplacement de ce texte dans le récit de Marc peut-il vraiment nous éclairer?
Eh bien, notre texte est le premier des éléments qui forment ce que l'on appelle la journée de Capharnaüm. Après avoir reçu l'Esprit pour sa mission à son baptême, après avoir vécu une retraite de réflexion et de décision, après s'être choisi des collaborateurs, eh bien, Jésus commence son activité. Et Marc rassemble, dans le cadre un peu artificiel d'une journée, l'essentiel de la mission de Jésus en Galilée. Et cette mission va se résumer dans l'annonce de l'Évangile et dans les guérisons.
Il va par toute la Galilée et il prêche dans leur synagogue et chasse les démons.
Jésus et ses disciples donc pénètrent dans Capharnaüm. Dès les débuts de la mission, Marc nous montre que Jésus n'est pas seul. Il a regroupé des disciples apôtres autour de lui. Alors Capharnaüm, eh bien, c'est un village au bord du lac de Tibériade. C'est une localité de pêcheurs et de cultivateurs. Il y a aussi une force de police et un poste de douane. Et ce poste s'explique parce que la frontière entre la Galilée gouvernée par Hérode Antipas, et la Golanitide qui est gouvernée par Philippe, cette frontière est toute proche. Jésus va choisir dans ce village les premiers hommes qu'il appellera à venir à sa suite, non seulement des pêcheurs comme André et Simon, Jacques et Jean, mais aussi Matthieu Lévy, le fonctionnaire du bureau des taxes. Et c'est dans cette bourgade qu'habite Simon-Pierre, et c'est sa propre maison qui va devenir celle de Jésus et de ses disciples.
Alors, le jour du sabbat, il entre dans la synagogue et enseigne.
La synagogue, on le sait, est le lieu de prière des Juifs chaque sabbat. La communauté locale s'y réunit pour un office. On y lit d'abord un passage de la Torah, puis un texte des prophètes. Et après cela, un des assistants fait un commentaire. Le chef de la synagogue peut même inviter un étranger au village pour faire ce commentaire, et c'est ce qui se passe avec Jésus. Notre texte ne nous donne pas le contenu de l'enseignement, comme le fait au contraire le récit de Luc, dans le cadre de la synagogue de Nazareth. Mais c'est peut-être parce que le focus est mis ici, non pas tellement sur le contenu, mais sur la manière dont Jésus enseigne.
On est frappé de son enseignement. En effet, il les enseigne comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Que signifie cette autorité de Jésus?
L'enseignement de la Torah a été donné par des rabbis. Et ces rabbis avaient suivi l'enseignement de maîtres. Il existait en effet des écoles rabbiniques où l'on apprenait les divers commentaires de la Torah que les rabbis les plus célèbres avaient fait au cours des siècles. L'enseignement était essentiellement une transmission, une tradition. Le rabbi commençait toujours par la formule « Rabbi un tel a dit ». Je ne sais pas si c'est à cause de cela que nos papes avaient conservé quelque chose de cette coutume lorsqu'ils appuyaient leur interprétation par la phrase qui était classique, comme l'a dit notre prédécesseur d'auguste mémoire. Mais on peut sans doute voir une allusion à cette pratique lorsque Paul écrit aux fidèles de Corinthe « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu ». Après son initiation dans cette école rabbinique, le jeune rabbi était ordonné par une imposition des mains qui lui conférait l'autorité spirituelle de sa tâche. Mais Jésus, lui, n'a pas suivi d'école de rabbi. C'est ce que nous dit en tout cas le récit de Jean.
Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient surpris. Ils disaient, « Comment est-il si savant, lui, qui n'a pas étudié ?»
L'ordination que Jésus a reçue, eh bien, c'est la descente sur lui de l'Esprit divin lors du baptême. Dans le récit parallèle de Luc, lors de sa première intervention dans la synagogue de Nazareth après son baptême, Jésus exprime bien ce lien entre l'Esprit qu'il a reçu et sa mission.
« L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter l'Évangile aux pauvres. »
L'autorité de Jésus va se manifester surtout parce qu'il ne cherche pas à s'abriter derrière d'autres rabbis pour donner son enseignement. Le récit de Luc le souligne d'ailleurs par les célèbres formules qui sont répétées dans le discours sur la montagne.
« Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis. »
Dans la discussion sur le caractère indissoluble du mariage, Jésus remet même en question une prescription qui vient de Moïse.
Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Mais au commencement, il n'en était pas ainsi.
Au commencement, oui, par-delà les traditions qu'il qualifie de traditions des humains, Jésus veut rejoindre la tradition de Dieu. C'est ce qui ressort de certaines de ses confrontations avec les pharisiens.
Les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mets impurs ?» Il leur dit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit.
« Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. »
Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. Vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit,
« Honore ton père et ta mère. »
Mais vous, vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, « Le secours que tu devais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire offrande sacrée. » Vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez.
C'est parce qu'il a une expérience toute particulière de Dieu Père que Jésus peut parler ainsi. Il rejoint sans doute les plus grands prophètes qui parlaient au nom de Dieu et qui ponctuaient leurs paroles de la formule « Oracle du Seigneur Dieu »,« Parole du Seigneur Dieu ». Il dira d'ailleurs à ses détracteurs qui lui demandent un signe accréditant son autorité « Il y a ici plus que Jonas, et il y a ici plus que Salomon. Or, Jonas est un prophète, et Salomon est identifié avec la sagesse de Dieu. »
Voilà un enseignement nouveau avec autorité.
L'autorité de Jésus qui donne un enseignement nouveau se trouve bien exprimée dans cette phrase du récit de Matthieu qui vient comme résumer le discours de la montagne.
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
La justice au sens biblique, c'est la conformité à la Torah, c'est la manière de vivre selon l'enseignement de Dieu, c'est la droiture du cœur devant Dieu. Cette fidélité à Dieu,
se vit chez les pharisiens sur le plan de l'échange d'équité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il faut mériter l'amour de Dieu par nos bonnes actions, car Dieu récompense les bons et il punit les méchants. Il faut aussi mériter l'amour du prochain, et le prochain doit mériter notre amour. Jésus réagit à cette vision.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes.
Une telle contestation de la vision courante qui était celle de l'élite religieuse va provoquer bien sûr l'agressivité des chefs. De quelle autorité enseignes-tu cela? Et Jésus répondra toujours qu'il parle au nom du Père divin.
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez que le Père est en moi, comme moi je suis dans le Père.
Ainsi, ce sont les actes de Jésus qui vont rendre témoignage de son autorité, autorité qui lui permet de proclamer un évangile qui est, comme il le dira, du vin nouveau, une vision nouvelle de notre relation à Dieu.
Il donne ordre aux esprits qui sont impurs et ils lui obéissent.
Le scénario de l'exorcisme peut paraître étrange à notre sensibilité moderne, même si cela peut se retrouver encore aujourd'hui dans certaines populations qui sont plus familières avec les possessions démoniaques. D'ailleurs, des gens des jeunes générations actuelles retrouvent une certaine sensibilité au parapsychique. On rejoint là les croyances animistes pour lesquelles toutes les choses de la nature ont une âme. À l'époque de Jésus, la plupart des maux dont l'être humain est affligé étaient attribués à des forces surnaturelles mauvaises, des forces qui veulent faire échec au dessein de Dieu. Pour la Bible, ces forces, ces esprits ne sont pas divins et ils sont donc de simples créatures. Mais l'esprit est dit impur parce qu'il vient s'opposer à Dieu. Le langage biblique oppose en effet l'impureté à la sainteté, comme l'exprime bien ce texte du Lévitique.
C'est moi le Seigneur qui suis votre Dieu. Vous êtes devenu saint car je suis saint. Ne vous rendez pas impurs.
On peut dire que l'irruption du Dieu saint dans la vie d'une personne va lui révéler son impureté, c'est-à-dire sa faiblesse et ses limites, en lui faisant percevoir l'infinie distance qui la sépare de l'amour de Dieu. On sait aussi que la bonté exceptionnelle d'une personne peut souvent susciter l'agressivité dans un cœur qui est, lui, particulièrement marqué par la haine et le ressentiment. Témoin, cette histoire vraie d'un prisonnier qui en a tué un autre parce qu'il ne pouvait pas supporter sa bonté. L'exorcisme, eh bien, c'est finalement une sorte de combat entre une personne qui est emplie d'amour et celle qui est dominée par les forces du mal. Et chacun essaye de prendre le pouvoir sur l'autre, de le dominer. Or, pour dominer quelqu'un, il faut le connaître, c'est-à-dire connaître ses points faibles. La connaissance du nom, dans les récits bibliques, exprime cette connaissance qui donne prise sur la personne. Le possédé va crier le nom de Jésus, « Tu es le Saint de Dieu !» Il a perçu la force divine qui irradie de Jésus. Il a perçu sa sainteté, sa force d'amour. Et l'esprit impur sait que cette puissance d'amour de Jésus veut vaincre le pouvoir que lui a sur le possédé, afin de délivrer ce possédé de tout ce qui le tient enchaîné à l'égoïsme et à la haine. Jésus va museler l'esprit. Il va le réduire au silence pour qu'il perde son pouvoir. Ainsi, cet esprit impur ne pourra plus dire ces paroles de mensonges, mensonges qui font errer le possédé sur des chemins qui sont des chemins de faux bonheur. « Il te faut devenir riche à tout prix,
même si tu dois exploiter ton prochain, car c'est l'argent qui fait le bonheur. Venge-toi de celui qui t'a fait du tort, car tu dois te faire respecter de tes adversaires. Refuse-toi au pardon, car le pardon est un aveu de faiblesse indigne d'un être humain. Montre-toi fort, l'amour qui rend vulnérable est un enfantillage. Lorsque ces voix crient en nous pour nous empêcher de voir notre insécurité profonde, alors elles nous dominent et nous possèdent. Et il faudra une autre voix, plus forte, emplie de cet amour qui est grâce, pour venir rejoindre cette semence de bonté qui est profondément enfouie au plus intime de nous-mêmes, et pour faire ainsi grandir, dans le posséder, la confiance, confiance de celui qui se sait enfin aimé pour lui-même. Cette voix exorcisera alors les cris de haine, de jalousie, de vengeance, qui sont en fait des armes de destruction de soi. Ce geste de Jésus, il ne faut pas d'abord le comprendre comme un geste spectaculaire visant à frapper l'imagination, à manifester l'extraordinaire puissance en lui de la divinité. Non, il s'agit d'abord pour Jésus de manifester l'amour et la tendresse de Dieu, ce Dieu qui veut libérer ceux qui sont sous l'emprise du mal. Ce geste-là révèle le lien unique qui unit Jésus au Dieu Père, et c'est donc ce geste, cette œuvre, qui authentifie son enseignement comme venant de Dieu.
Si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres.
Les gestes de guérison de Jésus ne sont pas des gestes pour impressionner et forcer l'adhésion. Ils sont des gestes qui veulent guérir le cœur en témoignant de la compassion du Père divin.
Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Et dit alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. »
Ce pouvoir est vraiment celui de l'amour, car il ne s'impose jamais de force. Il respecte la liberté de celui à qui il se propose, comme en témoigne d'ailleurs la réaction des pharisiens qui tenteront de faire croire que Jésus lui-même a un pacte avec les démons pour pouvoir les chasser avec une telle force tranquille.
Les pharisiens dirent, « Celui-là ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. » Voyant leur réaction, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Si donc Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume se maintiendra-t-il ? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. »
S'il est en effet une marque particulière qui distingue Jésus de bien d'autres exorcistes qui étaient en nombreux en son temps, eh bien c'est l'amour qui émane de lui, un amour qui révèle sa communion unique avec le Père divin et qu'il va communiquer à ceux qui vont l'accueillir. C'est là le sens de la réaction des assistants. Ils sont tous saisis de crainte. C'est sans doute ici la crainte qui étreint l'être humain devant la présence de Dieu. On retrouve d'ailleurs cet effroi sacré en des circonstances semblables comme celle de la tempête apaisée, un récit qui est très proche de l'exorcisme.
Réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?
Et on retrouvera cette même crainte sacrée au matin de Pâques, devant le messager divin qui annoncera la résurrection de Jésus.
Entrés dans le tombeau, elles virent un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de crainte. Il leur dit, « Ne soyez pas saisies de crainte. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. » Voyez l'endroit où on l'avait déposé. En quoi ce récit rejoint-il les disciples d'aujourd'hui ?
Mais peut-être pouvons-nous être rejoints sur deux points, l'enseignement de Jésus et la guérison.
Quelle est l'importance que nous donnons à l'enseignement de Jésus?
Oui, est-ce que nous ne mettons pas souvent sur le même plan toute l'Écriture sainte?
Ne donnons-nous pas aux textes de la Torah et des prophètes, aux psaumes, aux lettres des apôtres, à l'Apocalypse, la même importance qu'aux paroles de l'Évangile? Or, seul l'Évangile est la parole de Jésus qui est parole du Père.
Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ce que je le dis comme le Père me l'a dit.
Toute l'Écriture est jaugée par la parole du Maître et Seigneur Jésus. Toute autre parole, aussi importante soit-elle, doit être confrontée à la pensée de Jésus. Paul fait cette distinction entre sa parole et celle de Jésus dans une lettre aux Corinthiens.
À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Aux autres, je dis, c'est moi qui parle, et non le Seigneur. Si un frère a une femme non-croyante qui consent à vivre avec lui et qui ne la répudie pas.
L'Évangile a cette extrême importance parce qu'en lui nous est révélé le visage du Père dont Jésus est l'icône parfaite.
Et la parole divine s'est faite vie humaine. Elle a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père.
Être chrétien, c'est se conformer à cette figure de Jésus en mettant en pratique sa parole dans toute notre vie. Paul dira aux Corinthiens ce qui sera toujours l'unique but du disciple de Jésus.
Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. En quoi notre regard sur la guérison est-il inspiré de l'Évangile?
Oui, et d'abord, quel regard portons-nous sur les miracles de guérison? Certains chrétiens pratiquent des réunions de prière où l'on implore avec force et passion des guérisons. Certes, une telle prière est bonne, dans la mesure où elle manifeste la grande confiance de ceux qui prient. Mais toute prière de demande doit être purifiée par l'importance que l'on donne à l'amour dans la guérison. Dans la prière pour le souffrant, c'est la compassion de Dieu et de Jésus qui est demandée. Mais cette compassion doit être aussi en acte chez ceux qui prient. On ne peut demander à Dieu de guérir un frère, une sœur, qu'en étant en même temps prêt à manifester soi-même une grande compassion envers ce malade. Et celle-ci s'exercera à travers les petits gestes quotidiens du service, de l'attention à l'autre, du temps donné à être proche, de l'écoute qu'on accordera à celui ou à celle qui souffre. Mais, en second lieu, si le corps doit être guéri, combien plus l'âme a-t-elle besoin de guérison? Oh, nous avons aujourd'hui de nombreux psys de tout acabit, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres. Mais ces spécialistes ne font le plus souvent que nous rendre davantage conscients des causes de notre mal. Pour aider à la guérison, la bonté, la tendresse sont des forces précieuses et indispensables, car le terrain propice à la maladie est souvent un cœur qui est marqué par la souffrance du mal moral, celui que l'on subit et celui de notre propre péché. Il est une pratique chrétienne qui est peut-être trop laissée de côté, le pardon des fautes. Oui, le sacrement du pardon est tombé en désuétude. Sans doute, sa forme ne correspond-elle plus tout à fait à notre sensibilité. Sans doute aussi, certains confesseurs, par le passé, s'étaient-ils accordés un pouvoir injustifiable sur les consciences. La lettre de Jacques pourrait nous inspirer pour la célébration de ce sacrement. Il y a là une précieuse description du rôle de la communauté chrétienne dans la guérison des malades et dans le pardon.
Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de la communauté, qu'il prie pour lui. S'il a commis des fautes, elles lui seront remises.
Prière et pardon, c'est-à-dire don de l'amour, sont associés pour apporter la guérison, mais la lettre élargit le champ de ce don du pardon.
Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris.
Cette recommandation de Jacques semble inspirée de la pratique juive du temps de Jésus. En effet, au jour du Yom Kippour, la fête où l'on fait la confession des fautes, eh bien cette confession des péchés à Dieu était précédée de la confession les uns aux autres et de la prière les uns pour les autres. Un texte du Lévitique
De tous vos péchés envers Dieu, vous serez purifiés » était ainsi commenté par Rabbi Eleazar ben Azaria.
Yom Kippour ne peut procurer le pardon tant que cet homme n'a pas obtenu le pardon de son prochain.
Le récit de Matthieu évoque une telle pratique chez les disciples de Jésus.
Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes.
C'est que le pardon n'est pas d'abord l'oubli des fautes, mais la métamorphose du cœur. D'un cœur égoïste, le pardon fait un cœur tourné vers les autres. D'un cœur haineux, le pardon fait un cœur prêt au pardon. On ne peut à la fois refuser le pardon à son prochain et vouloir le pardon de Dieu qui change notre cœur. Déjà le Siracide disait cette impossibilité.
Pardonne à ton prochain ses torts, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si quelqu'un nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Pour son semblable, il est sans compassion et il prierait pour ses propres fautes.
Le Notre Père nous rappelle cela quotidiennement. Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ce pardon des fautes, eh bien, c'est la mission des disciples de Jésus.
Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité.
Mais si le ressuscité rappelle cette mission, il en donne aussi le moyen privilégié, l'autorité.
Il souffle sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. »
Jésus est vivant encore aujourd'hui parmi nous pour réaliser cette guérison des cœurs, cette guérison qui va faire de nous des fils et des filles de Dieu libérés de leurs chaînes et de leurs servitudes. En nous donnant son Esprit, Jésus ressuscité nous partage son autorité pour nous rendre capables de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous aime.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, au feuillet ou aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine et ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.